parking de Saint-Dachau. Oh, je suis vulnérable comme un bébé chaud dans un parking de Saint-Dachau. Où ça? Dans un parking de Saint-Dachau. Encore? Dans un parking de Saint-Dachau.
Your television set immediately, unless you are prepared to be really terrified.
Bon matin, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre show, votre sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Cette semaine, encore des sujets chauds, très chauds, n'importe quoi. Mais tout d'abord, on a une grande annonce très importante, et pas n'importe laquelle cette semaine. Un événement interplanétaire a eu lieu. Olivier, je pense que t'es au courant, tu sais de quoi je parle?
De...
Ben voyons, tu me niaises?
Un événement interplanétaire.
Ben là, crime, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des catastrophes un peu partout à cause de ça.
Chut, non. De quoi tu parles?
Pour vrai? Ben voyons, ok, je le lance là. L'anniversaire d'Olivier, mesdames et messieurs! Encore une année passée! Nous te souhaitons un joyeux anniversaire! Un anniversaire!
Merci Simon.
Bonne fête Olivier,
merci.
Je t'aime.
Moi aussi je t'aime Simon.
On vit des grandes choses aux Oubliettes. Eh
oui.
Hey boy, comment tu vas Olivier?
Bien.
Olivier Bigonès, mesdames et messieurs, mon fabuleux co-animateur.
Je vais très bien. Comment tu vas toi cette semaine?
Fatigué, mais oui. Ça va très bien. C'est ça. Ah, puis là je reçois des... Ah, c'est, en tout cas, s'il y en a qui m'écoutent, là, je reçois plein de messages de filles sur mon cell pendant que je parle à la radio. Je peux pas vous parler. J'ai pas le temps. Ceci étant dit, on a un gros show encore cette semaine. Je suis bien content. Moi, cette semaine, je débute une fois par mois, en fait. OK. Versaire, on l'a eu. C'est bon.
Bon, merci.
Moi, là, à partir de cette semaine, je commence quelque chose de nouveau. Une fois par mois, je vais offrir à nos auditeurs la chance de choisir le film dont je vais parler à l'émission en postant des photos de mes VHS, puis ils vont choisir dans pile de quoi je vais parler. Ça va me permettre de découvrir moi-même des films de ma collection que j'aurais pas tendance à aller regarder, parce que j'en ai de tous les genres, mais je regarde pas tous les genres quand je suis seul chez nous. Il y en a des moins faciles. Donc, ça va me permettre de faire des découvertes en même temps que vous. Cette semaine, j'ai commencé avec une suggestion que j'avais déjà eue d'un certain Philippe Saint-Jean. Salut Phil, qui m'avait demandé de critiquer Lumikuningatar. Je ne sais pas comment ça se prononce, là, mais ça, en tout cas, je vais juste le lire. Là, mais c'est finlandais, une version de 1986 du conte de Snow Queen. Toi, Ali, tu nous parles de quoi?
Moi, c'est une surprise parce que je t'avais dit la semaine de ma fête. Il y a un film que je veux parler depuis longtemps, pas extrêmement rare, mais si je vais me faire plaisir, j'ai le goût d'en parler, fait que c'est une surprise.
Tu nous gâtes.
Eh oui.
Oh yes, puis finalement, je remplace un peu les VHS insolites de la semaine, quoique il y en a quand même, je vais y revenir. Je vais vous parler de la légende de Blockbuster, ou pourquoi la chaîne américaine aujourd'hui brûle en enfer. Sur ce, je pense que je vais me lancer direct, là. On va commencer avec le Lumi... Attends, comment tu dis? Lumikuningatar.
Lumikuningatar.
Donc, The Snow Queen, hein, c'est c'était une demande spéciale de Philippe Saint-Jean, comme je disais. On va recommencer les piges dans 3 semaines. C'est donc un film finlandais de 1986, un film fantastique qui a été réalisé par Päivi Hartzell. Puis je le prononce sûrement pas comme faux, là. Je fais juste le lire. C'est une fille, parce que son nom le laisse pas présager. Deux autres films à son actif seulement, des films finlandais au nom imprononçable. Les acteurs aussi, c'est des acteurs finlandais plutôt méconnus en Occident. Hein. Les enfants du film n'auront joué que dans ce film en termes de cinéma. C'est une adaptation donc du conte de 1844 écrit par Hans Christian Andersen, un auteur danois. Il aurait écrit de Snow Queen en 5 jours, et c'est pourtant son conte le plus long. Mais je vais ici critiquer le film et non le conte. Je ferai pas d'analyse pointue sur l'adaptation parce que j'ai pas lu La Reine des Neiges, malheureusement. J'ai manqué de temps pour le faire. Donc, c'est quand même un conte classique. Beaucoup ont vu, il y a eu des films d'animation, il y a eu plusieurs adaptations, je dirais une dizaine même à travers les années. Donc, voici le synopsis. Un sorcier a fabriqué un miroir magique, mais le miroir se casse et deux des morceaux ensorcelés se coincent dans l'œil et le cœur d'un garçon innocent nommé Kai. Il va soudainement disparaître, mais ce que je croyais être sa sœur, plutôt sa meilleure amie dans le livre, Kurtu, appelée Gerda dans la traduction anglaise, je préfère Kurtu, part à la recherche de Kai à travers une série d'aventures fantastiques aux personnages hauts en couleur. Donc, le déroulement de l'histoire est simple, hein, même dans le conte, c'est séparé en 7 parties. La Reine des Neiges, qui est l'intro. Deuxième partie, un petit garçon, une petite fille, qui est un peu la présentation des deux enfants et la disparition de Kai. Troisième partie étant le jardin de la magicienne, qui est en fait le kidnapping par la sorcière de ballet. Je vais y revenir. Quatrième partie, le prince et la princesse végitent chez la reine de 10 ans. On y reviendra. Cinquième partie, la petite fille des brigands, kidnappée par une espèce de bande de motards. Sixième partie, la femme lapone et finnoise. Et septième partie, maintenant, la finale, hein, qui s'appelle « Ce qui s'était passé au château de la Reine des Neiges et ce qui eut lieu par la suite ». Un peu long comme nom de chapitre, mais bon. C'est un film donc fantastique pour enfants, mais avec une touche très adulte dans son rendu. Ça m'a beaucoup rappelé les vieux films de Terry Gilliam, ou peut-être même La Magie de Tim Burton, mais sans son côté très gothique. Je dirais très Terry Gilliam dans ses débuts, okay. Avec des maigres budgets, mais avec un effort quand même imposant sur les costumes et les décors. Mais avec moins de budget. On va y revenir. Attention, hein, beaucoup moins de budget. Je pense que c'est le handicap principal du film de Snow Queen de 86. Faut pas négliger le fait que le public cible reste les enfants. J'imagine que leurs yeux, le film n'est que magie. Mais avec l'œil critique d'un adulte, c'est facile de spotter la pauvreté des décors et les nombreux non-sens pour couper le superflu. Moi qui aime les films fantastiques, je dois admettre que j'ai été diverti. Toutefois, j'accuse le film de plusieurs longueurs ennuyantes qui brisent un peu notre attention. Il aurait pu couper certaines de ces longueurs pour y insérer du nécessaire. D'une scène à l'autre, ça s'embrique parfois très mal. Les enchaînements semblent avoir été botchés, je trouve. Difficile à expliquer, mais les sauts dans le temps d'une séquence à l'autre ne fonctionnent pas souvent, ce qui m'a fait hausser les sourcils accompagné d'un « what the fuck » murmuré à plusieurs reprises. Clairement, on constate qu'ils ont dû couper dans l'histoire pour que ça entre dans 90 minutes. J'ai juste trouvé, comme j'ai dit, que certaines scènes auraient pu être raccourcies pour ajouter ailleurs. Mais bon, parfois les choses se passent bizarrement. Dans une scène, la fillette marche dans les bois. Là, il y a une espèce de dude qui sort de derrière un buisson, se présente avec une phrase weird pour qu'on se dise « Ah, ce personnage semble un beau fou ». Et puis avant de même de vraiment savoir qui est la petite fille toute seule dans le bois, il répond « Tu cherches le petit garçon qu'on nomme Kai? Je vais t'aider ». Et sans raison apparente, va seulement l'aider. C'est un peu rapide comment ça se passe. Mais en plus, il amène même pas au bon endroit. En tout cas. Là, il va pointer le château qui semble lointain. Comme le centre du labyrinthe dans le film Labyrinthe, quand on le pointe depuis l'extérieur de la forteresse. T'sais, ça semble lointain. Ça semble annoncer une grande aventure qui s'en vient. On a l'impression qu'elle va entreprendre un grand voyage jusqu'au château, mais non, paf, le plan suivant, ils arrivent à la porte du château. C'est ça, je veux dire un peu, c'est mal monté, je trouve. On donne l'impression que ça va être long, puis finalement, on te coupe l'herbe sur le pied. Okay. Ça arrive un peu trop souvent. La musique est excellente, mais parfois, elle peut sonner un peu cheap, hein, mettre ça sur le dos du budget. C'est quand même une très belle composition. Toutefois, je trouve qu'il manquait un peu d'intensité. La musique est quand même douce, semblant vouloir imaginer un rêve, mais il manque un petit oomph à certains moments, je dirais. Par contre, je dois préciser que les acteurs sont tous excellents. Un bon cast qui cadre très bien dans la magie du film. Les deux enfants sont très bons, même si la fillette aurait pu avoir un peu plus d'intensité dans son jeu. Peut-être une plus grande diversité d'émotions dans son visage. Mais je l'ai quand même adorée. Elle est vraiment excellente. Elle m'a toujours fait... elle m'a beaucoup fait penser, dans le fond, à Alice au Pays des Merveilles à travers son voyage. Là. Okay. Un peu la petite innocente là, qui essaie de comprendre ce qu'elle a devant les yeux, finalement, puis qui... se laisse border par l'aventure, finalement. Aussi, j'ai adoré la sorcière qui envoûte les fillettes en ballerine. Elle est absolument effrayante. Un peu comme une Ma Tante ou une Michelle Richard, mais dépeint par John Waters, là. Tu sais, avec trop de maquillage, là. C'est comme si t'avais pris Devine, puis tu l'avais mis dans un conte pour enfants, là. Elle est vraiment creepy. Elle fait peur. Elle a un côté grotesque et épeurant qui va plaire aux adultes, je pense. Les scènes creepy sont très creepy. Les méchants sont vraiment effrayants aussi pour des enfants. Il y a un côté très salaud au film qui m'a plu. La scène des bandits, motards, c'est pas vraiment des motards, je précise, là, ça n'a pas rapport. C'est juste que, esthétiquement, c'est des motards, là. C'est comme un gang de rue en côte de cuir avec des couteaux tout sales, là, grivois, là, qui vont... Okay. C'est pour ça que je les appelle la bande de motards, là, mais ils n'ont pas de moto. La scène des bandits, justement, quoique pas parfaite, est très sale et sans tomber dans la violence inutile, brouille un peu l'esprit d'un semblant de violence présagée. Ils jouent avec les couteaux puis tout ça. C'est un peu troublant pour des kids, j'imagine. Surtout que la chef des bandits la menace de la manger après le kidnapping pour ensuite changer d'idée pour la vendre à un riche célibataire. Bâtard, elle a max 10 ans, tu sais. Mais c'est ça, faut pas négliger le fait que des contes, c'est ça, là. C'est élevé des contes, là. C'est sûr que si tu regardes les versions Disneyland des contes, là, tu regardes La Belle au bois dormant faite par Disney, puis tout ça, ben tout est beau, il y a du violon, tout est réjouissant de bonheur. Les contes, là, c'est trash en câline,
oui,
là.
Si tu reprends l'histoire, là, t'as raison. Là.
Ben oui, si tu reprends l'histoire originale, là, les frères Grimm, là, leur compte, oui. Là, je m'excuse, mais c'est trash, là. Il y a tout le temps quelqu'un qui se fait manger vivant, puis massacré. Les sorcières sont toujours fucking evil. Fait que, je trouve ça intéressant quand qu'on le met pas de côté, ce creepiness-là, puis c'est l'effroyable, des contes rétro. Fait que j'ai quand même apprécié ça. Oui, pour des kids de 10 ans, ça peut paraître un peu rough, mais n'est-ce pas des visions du monde réel que sont les contes, et le monde réel n'est pas que bonbon. Donc, je suis je fais partie du monde qui trouve que dire les vraies affaires aux enfants, trouver la meilleure façon de le dire, bien entendu, mais dire les vraies affaires aux enfants est quand même un prérequis pour les aider à faire face à ce qui s'en vient à l'âge adulte. Ils font moins le saut quand ils découvrent que les gens meurent à un moment donné dans leur vie. Mais bon, c'est ça que je veux dire par un petit côté salaud. Hein, ils vont vendre la petite fille à un riche millionnaire qui va faire ce qu'il veut avec comme une esclave.
Ouais, c'est
hein.
Assez...
C'est un petit salaud qui va plaire, du moins surprendre même les adultes. Le film a ses moments trash bien dosés qui gardent toujours en tête que le public est quand même des enfants. Là. Un film fantastique et enchanteur, oui, mais sombre, très sombre. Je sais que le public... Je sais que je suis un public difficile et j'ai tendance à remarquer plus les erreurs ou le manque de budget au lieu de m'abandonner dans la magie d'un film. C'est un défaut qui m'est venu avec mes nombreuses années au sein de douteux.org à simplement rechercher les défauts. Mais je vais quand même préciser que c'est un petit bijou que j'aurais aimé voir enfin pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Dans l'ensemble, tout le monde sur Internet semble aimer ce film finlandais oublié et délaissé. Mais mes yeux d'adulte grognon sont trop critiques pour un film de magie dans lequel on devrait plutôt se laisser submerger. Je me demande si j'aurais haussé les sourcils aux enchaînements qui font aucun sens si je l'avais vu à 10 ans. Probablement que non. C'est un des avantages cinématographiques du cinéma jeunesse, hein, on peut s'en permettre un peu plus. Décrit comme une œuvre, décrit comme un chef-d'œuvre sur Internet, j'opterais plutôt pour le mot œuvre tout seul. Un très beau film surprenant et sombre comme on aime nos contes, qui n'est pas sans faille, mais qui s'écoute admirablement bien sans nécessairement s'en rendre compte du montage, peut-être un peu fait à la va-vite. Mais pour vous l'accuserez tout de même de 3 ou 4 longueurs qui ne sont pas interminables, mais juste un peu irritants. Là, des fois, on a hâte que ça enchaîne. À vous de vous faire votre propre idée, hein. Si vous êtes fan de Fantastique, cette découverte est pour vous. Il mérite le détour, mais je doute que vous voudrez le revoir pardon, une deuxième fois, sauf peut-être si vous avez 10 ans. Allons écouter la toune des motards. Parce que, je précise, hein, c'est même si la musique est très présente dans le film, ce n'est pas une comédie musicale, sauf pour la scène des bandits. D'un coup, qu'ils ont dit « on va te manger », puis que là, ils essaient de se faire peur autour de la fameuse cage dans laquelle ils l'ont enfermé. Les bandits se mettent à chanter une toune en finlandais. Je sais pas, je comprends rien de ce qu'ils disent. Moi, je l'ai vu avec sous-titres anglais. On raconte... qui a déjà été traduit en français, pour la télé du moins, mais j'ai jamais réussi à trouver une copie. Le film, en grande majorité, se trouve en version finlandaise avec des sous-titres anglais. C'est la version que je vous ai partagée, il se retrouvait déjà sur YouTube, séparé en 5 parties. Je vous invite à aller voir ça. Puis là, on s'en va écouter une chanson dont j'ignore le titre, parce que c'est finlandais, puis je sais pas lire le finlandais, que j'ai appelé l'hymne des bandits, tiré du film Lumikunin Gatar, alias The Snow Queen de 1986, qui fait très comédie musicale, malgré que c'est la seule scène du film qui est comme ça. Je vous ai pas tout dit sur le film, je veux quand même vous laisser des surprises. Vous allez voir, vous avez des séquences vraiment weird dans le film, que je me suis gardé. Il est quand même intéressant, il est tentant, il y a des trucs surprenants dans le film qui vaut la peine d'être découverte, quoique on garde quand même en tête que c'est un film pour enfants. Fait qu'on s'en va écouter l'hymne des bandits. On revient tout de suite après avec la surprise d'Olivier.
Tekisen, a kysyn, mistä löytyy syyllinen. Tää kuukuu kesän sumun. Täällä jää jäljet yhden katoa. Me olemme marjojen kuninkaat. Mitä tarvitsemme, sen me otetaan. Meitä polttaa musta tuli. Sielu sataa ensi lumin. Nukkekodin poppa. Ja tuota paras kiva. Varjojen kuninkaat. Lapset juokse pitkin karamellikatua. Joku ensin karannuttaa ilman palloa. Saatu kirjan samua, kun te voittaa omistajaa. Prinsessa on häkissä ja ruuta apua. Me olemme varjojen kuninkaat. Mitä tarvitsemme, se me otetaan. Meitä polttaa musta tuli, sielu sataa ensi lumin. Nukkekorin polttaa, ja tulta pärästi. Varjojen kuninkaan.
Niistä haisee pimeässä, tuulen alla varjossa puuma odottaa.
Kun me tiedä. Kun ne katso, puuma loikkaa.
Vain ruohon korsi värähtää.
Kuinka olet mennyt tään?
Juokse pakoon, lymyä, pyydä armoa. Suuri varjo, suden varjo, sinut peittää.
Nyrkeäsi turhan huidot.
Kuinka olet mennyt tään?
Korporaukka eksynyt, kotitieltä karannut.
Pimyinen painastuansa, pian tunnet kasvon sonnen.
Hyen ammen nuolaisuja,
kohta olet mennyt tään.
eikä saalinta. Ei juomia tule eikä huomisia ole teljet. Kaikille te nostakaa ja malja
Et oui, donc ma surprise cette semaine, Simon, je parle du masterpiece à mes yeux, Phenomena.
Whoop whoop!
Yes!
Quel film!
J'avais donc du hâte de parler de ce film-là, là. Écoute.
Je pense que tu m'en parles depuis que je t'ai proposé de lancer l'émission, en fait.
Tu sais, puis on s'en est dans une direction, puis je me suis dit, bon, mais écoute, c'est pas un film super, super rare, c'est pas un film très, très connu non plus.
Non, mais je t'ai quand même précisé aussi au départ que... malgré que ce soit la ligne directrice pour aller chercher justement de l'information des films qu'on n'a pas tendance à parler beaucoup, faut pas s'empêcher à parler des films qui nous passionnent, là, même si c'est des films que tout le monde a vu 100 fois. Là,
t'sais, fait que c'est pour ça que je voulais me faire plaisir. Je me suis dit, yeah, ça, c'est la semaine de ma fête. C'est la fête aussi à Phenomena qui a eu 30 ans cette semaine.
Oh oui, un grand jour.
Un grand jour pour Phenomena qui va faire le cover pour le prochain Fangoria de ce mois-ci. Donc, il décortique le film bien comme du monde. Donc, je commence. Donc, oui, Phenomena, a.k.a. Creepers, version New Line complètement butchered que je vais vous parler, et le titre en français, Phenomena. Donc, réalisé en 1984.
Attends. Bon, OK, non. Tu vas y revenir à la censure de la version?
Oui, okay. Oui, oui.
Je veux qu'on en parle parce que oui. Moi, je viens de réaliser que c'est la seule copie que j'ai vue ever.
Creepers?
Ouais.
Oh, boy, Simon, pour vrai?
Ouais.
Hey, pauvre toi, merde. Oh, shit.
Hey, je m'en doutais qu'il manquait quelque chose parce que je connais Argento. Okay. Je me doutais qu'il manquait quelque chose. En même temps, c'est... Je sais pas. Mais là, tu me confirmes ça. On va y revenir. Oh, je t'écoute. Bon.
Donc, oui, et film écrit, produit et réalisé par le Hitchcock italien Dario Argento. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, bon, ben Dario Argento est né à Rome en 1940, qui a été surnommé, comme j'ai dit, le Hitchcock italien. Très bon réalisateur des années 70, 80, 90. Whoop, côté 2000, il a commencé à réaliser de la marde. Mais bon, je garde espoir pour Dario pour son prochain film de Sandman. Donc, entre autres, il a réalisé Deep Red en 77, Suspiria, Inferno, Ténèbres, bon, et aussi également écrit par Franco Ferrini, qui a souvent travaillé avec Argento, dont Once Upon a Time in America, Demons, Opéra, que co-scénariste. Donc, le cast du film, Jennifer Connelly.
Yeah! Elle, je l'aime. Elle, là. Ah, oh, je l'aime.
Si t'aimes pas Jennifer Connelly, t'es pas mon ami. C'est aussi clair que ça.
Pour donc. Ceux qui la replacent pas, hein, c'est, oui. C'est oui. La comédienne principale, la jeune fille du film Labyrinthe.
Oui.
Avec aussi...
David Bowie.
David Bowie. C'est l'adorable Jennifer Connelly qu'on adore. On l'a vu aussi dans... peut-être aller numérer ce qu'elle faisait.
Tu vois, bon, Rocketeers, Dark City, Requiem for a Dream, Beautiful Mind, pour lequel elle a gagné un Oscar. Ouais,
j'avais oublié Dark City, c'est vrai, c'est pas ça. C'était bon, ça.
Puis son rôle dans le film est fait Jennifer Corvino. Ensuite de ça, on a Daria Nicolodi dans le rôle de Fro Brockner, qui est l'ex-femme finalement de Dario Argento, avec qui il a eu Asia Argento. Entre autres, bon, joué dans Deep Red, Shock 77 de Mario Bava, l'excellent Shock, Opéra, que Dario a un certain plaisir à torturer son ex-femme dans ses films. On en reparlera peut-être à un moment donné.
Ben, ça fait aussi tant que ça. Ça fait y aller dans des situations érotiques à
cette
heure-là.
Oui, c'est assez spécial. Donc, ici, on a Dalila Di Lazzaro, qui fait la directrice de l'école, qui a entre autres joué dans le excellent Andy Warhol's Flesh for Frankenstein en 73, Night Train Murders en 75. On a aussi Patrick Beauchaud dans le rôle de l'inspecteur Geiger, qui a joué dans Enigma de Fulci. Emmanuel Katz, A View to Kill en 85, Panic Room avec Jodie Foster. Ensuite de ça, Donald Pleasence, tout le monde connaît Donald, dans le rôle du professeur John McGregor, qui a entre autres joué dans Fantastic Voyage en 66, You Only Live Twice, qui a été repris après de son rôle dans les Austin Powers, et bien entendu, Halloween. Donc, sinon, le reste du cast, la seule autre que je mentionnerais, ça serait Fior Argento, qui a entre autres joué, qui est la fille aînée de Dario Argento, qui a entre autres joué dans Demons et The Card Player.
Ah ouais, elle joue laquelle? C'est qu'elle m'a pointé.
Dans Demons, c'est celle qui s'en va dans le conduit d'air avec son chum à un moment donné.
Ah ouais, OK.
Ça, c'est sa fille.
Ah ouais, OK.
Donc, elle est designer aujourd'hui. Là. Elle a joué dans le Card Player pour faire plaisir à son père, mais c'est pas sa carrière. Donc, le reste du cast, bon, il y a Federica Mastroianni dans le rôle de Sophie qui a rien fait vraiment d'autre. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a un grand cast, mais c'est les personnages importants du film. Donc, le synopsis du film. Donc, lors d'un après-midi venteux, après avoir été laissé derrière par sa classe d'école en visite dans les Alpes suisses, une jeune touriste trouve refuge dans une maison vacante sur une colline. Donc, prise au dépourvu, elle tente d'y trouver de l'aide, mais il sera pourchassé par un tueur armé de ciseaux enchaîné au mur qui la décapitera et ensuite se débarrassera de sa dépouille en la pitchant dans une chute pas loin là. Donc, la police a affaire à un tueur qui tue que de jeunes filles. Là, on parle des jeunes filles là, de 13-14 ans. Là. Il laisse des morceaux derrière et en conserve quelques-uns comme trophées, là, si vous voulez. Donc, le détective Geiger, Patrick Beauchaud, va faire appel à l'entomologiste John McGregor, Donald Pleasence, qui est confiné une chaise roulante après un accident. Pour l'aider à comprendre, selon les larves qui sont retrouvées sur les parties de corps, le moment exact où les victimes y ont laissé leur vie. Donc, 8 mois plus tard, Jennifer Corvino, Jennifer Connelly, c'est la fille d'un célèbre acteur, Paul Corvino, qui s'en va étudier dans le très prisé collège Wagner, un collège exclusivement pour jeunes filles, où elle va se lier d'amitié avec sa consœur de chambre, Sophie. Donc, le collège est dirigé quand même avec une main de fer par la directrice Dalila Di Lazzaro, The Bitch, vraiment,
The Bitch.
Qui se nommera Jennifer dès son arrivée. Donc, un petit peu là, un petit peu à la The Little Princess, là. Le classique, ouais, ouais. Là, il y a un mood comme ça, la relation entre les deux, que, OK, t'as de l'argent... je te méprise parce que t'es belle, t'as de l'argent, puis tout.
Ouais,
que,
c'est comme de la jalousie.
C'est ça, j'ai remarqué. C'est une méchante bitch. Fait que là, sauf que Jennifer souffre de somnambulisme. OK? Donc, une nuit, lors d'une crise, elle va se promener dans une partie close de l'école où elle va assister à un meurtre. Donc, d'une jeune fille qui va se faire transpercer la tête avec un harpon. Donc, Jennifer est toujours inconsciente, déboussolée par ce qu'elle a vu quand même. Donc, elle est encore entre la réalité, le rêve. OK? Donc, toujours somnambule après le rime massacre, elle déambule sur la route où elle va se faire renverser par une voiture par deux jeunes hommes. Donc, ils vont tenter de la calmer, mais Jennifer est dans tous ses états. Puis, elle va se sauver dans la forêt qui est pas trop loin sur le bord de la route où un singe, oui, un singe, va l'accueillir.
Ben, un chimpanzé.
Un chimpanzé, oui. Donc, c'est Inga. Le nom du singe qui va l'amener main dans la main, c'est super beau cette scène-là, jusqu'à son maître, le fameux professeur McGregor, l'entomologiste.
Ouais.
Donc, McGregor va remarquer que les insectes réagissent d'une certaine façon en présence de Jennifer. Donc, quand ils sont calmes, quand elle est calme, ils sont calmes. Quand elle est énervée, apeurée, ils deviennent agités. Donc, maintenant éveillés, il y a une seule chose que notre héroïne veut faire, c'est dégapir le plus rapidement possible, retourner aux États-Unis. OK? Donc, va-t-elle y arriver? Est-ce qu'elle va y arriver vivante ou whatever? Moi, j'arrête là. Je veux pas trop en dire pour ceux qui l'ont pas vu.
S'il en reste? Qui l'ont pas vu?
C'est ça, parce que...
C'est sûr qu'il en reste.
Écoutez, Phenomena a été perçu longtemps comme le film le plus personnel aux yeux de Dario Argento. Il a été distribué par Titanus en Italie au départ.
What?
Ouais, Titanus. Hey, ben. Avec un budget quand même de 4 millions de dollars. Pour 84.
Pour l'époque, ouais, c'est ça.
Le film s'en est quand même
84
bien,
en Italie aussi, en Italie, on précise. Là, eux autres, ils ont pogné un trou à un moment donné avec leur budget des films.
Oui, oui, oui. Tu sais, fait que il était hot, là, Dario, là, dans ce temps-là. Fait que budget, ben, allez, let's go. Le film, c'est ça, s'en est bien sorti, surtout en souche italienne et surtout asiatique. Les petites filles trippaient bien raides sur le look de Jennifer Connelly, se peignaient les cheveux comme elle, c'est devenu une superstar en Chine, au Japon. C'est là que j'arrive, là. Lorsque New Line a acheté les droits pour une distribution en Amérique en 85, ils ont amputé le film de 28 minutes.
28 minutes?
Oui.
Hey, OK, fait que techniquement, j'ai pas vraiment vu le film.
T'as rien
vu, là.
Simon.
Oh my God.
OK.
Moi, moi puis ma manie d'écouter mes cassettes au lieu de juste trouver le film en bonne qualité.
Ah ouais. Fait que la version Creepers, ils l'ont appelé Creepers, la version où on voit Jennifer Connelly tenir un paquet de bébés dans ses mains et le côté de son visage mangé, ça, c'est la version cut.
Okay, l'autre version,
L'autre version où elle tient des insectes dans ses mains mais que son visage est intact, Phenomena en français. La version est complètement intégrale.
En français.
En français, elle est intégrale.
Moi, j'avais VHS en anglais. Ça veut-tu dire que c'est sûr que c'est la version coupée? Je me rappelle pas son visage.
C'est
la version française, elle est uncut.
Uncut. Moi, c'est la première version que j'ai vue quand j'étais petit.
Donc, si vous avez ça à vendre, faites-moi signe sur Facebook. Je la veux.
Donc, c'est la version à ne pas regarder, surtout pas votre première fois. Donc,
Je vous rassure, c'est pas la version que j'ai partagée en ligne. Okay. Le film est déjà sur YouTube. Je l'ai partagé en version anglaise, uncut.
OK. Sinon, moi, je peux te l'envoyer en français. Le DVD est en français. Mon VHS ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est ça. Beaucoup de scènes coupées, dont, bien entendu, le gore. Du dialogue. Certaines scènes complètes de dialogue seulement là, qui ont été coupées. Quand même 28 minutes, là, c'est
28
quoi?
28 minutes, c'est
pas,
beaucoup.
5
là.
Minutes, là, c'est presque une demi-heure. Là.
Une demi-heure, il s'en passe, il s'en passe une demi-heure des affaires. Là. Check l'auberge du chien noir, tout ce qui peut arriver pendant une demi-heure.
Donc, on peut entre autres voir dans le documentaire de Dario Argento, Dario Argento's World of Horror, qui a été réalisé par
Soavi.
Une scène coupée. Seule est carrément coupée du film. On la voit juste dans ce documentaire-là où Jennifer est en lévitation lors d'une scène à la Carrie où les filles de l'école sont en train de la boulier. Puis là, elle pète les plombs puis elle fait appel à ses millions de petits amis, si tu veux. La version DVD allemande de Dragon Entertainment, qui est la plus longue, qui est très rare. My God, j'ai capoté quand j'avais mis les doigts là-dessus. C'est des scènes de dialogue de plus, pas plus de gore, plus de dialogue, des scènes à un moment donné qui ont été coupées que j'étais comme « Ah, OK, oui, ça fait du sens. » Ça ajoute un petit quelque chose, je vous dirais, pour les fans finis comme moi de ce film-là. Donc, je sais même vous avez les mains là-dessus, puis que vous ne savez pas, votre copie à vos chers en maudit. Donc, puis toutes les bouts rajoutées sont en allemand, bien entendu.
OK.
Donc, overall, Phenomena, c'est... Pour moi, c'est un masterpiece vraiment à la saveur mid-80s. Ça paraît qu'on est en 84. La soundtrack est excellente. On a Bill
qu'on
Wyman.
Entend en arrière depuis tantôt.
Tu sais, fait qu'on sent, ça sent le 80s.
Ben, T'as-tu un ami qui l'a fait?
Oui, mais c'est ça, je m'en dis.
Tu reviens, hein? Ouais. Ok, je vais me taire.
Donc, on a Bill Wyman. On a du Iron Maiden, Simon Boswell, Motorhead, bien entendu. Les Goblins.
Goblins! C'est ça qu'on entend en arrière, là.
Donc, Phenomena, OK, c'est drôle. Okay, je te le dis, toi puis moi...
Peut-être dire qui est Goblins, c'est quand même une vedette, là. Il reste toujours quelqu'un qui connaît pas Goblins.
Les Goblins, OK, c'est un band italien qui a été découvert par Argento, qui les a engagés pour faire sa musique dans Deep Red. Puis à partir de là, c'était une longue histoire d'amour avec eux autres où ils ont toujours fait la musique pour Dario, sauf, je crois, Giallo. Il y a eu un petit malentendu entre les deux, donc il n'a pas fait la musique pour ce film-là.
OK, mais ils ont fait tellement de films, là, des classiques.
Fucci, D'Amato. Ils font de la méchante bonne musique, là, sérieusement.
Ils sont venus à Montréal.
Oui, maudit.
Ça a l'air que la dernière fois qu'ils étaient supposés venir, finalement, le show avait été annulé à la dernière minute. Les billets avaient déjà été vendus.
Ils se font appeler Démonia quand ils partent en tournée. Il y a, la superstar de ça, c'est surtout Claudio Simonetti, qui est très gentil. Allez parler sur Facebook.
Évidemment, c'est mon ami. Tu l'as sur Facebook.
Donc, OK, où c'est que je t'ai rendu? Ouais, OK, c'est ça. Phénomena, OK, là, c'est un conte de fées pour adultes.
Ah, oh, tout à fait.
Je m'explique. Donc, il y a beaucoup de scènes, OK, qui rappellent Hansel et Gretel, le début du film, la maison en pain d'épices, Snow White and the Seven Dwarfs, The Sleeping Beauty, bien entendu avec une touche de violence et de gore. Le film regorge de styles différents, donc bien sûr du giallo.
C'est vrai.
Du giallo, c'est Argento là, tout de même. Là. Mélange de slasher, de paranormal un peu. C'est un gros mix d'un paquet d'affaires, ce film-là. C'est
mais
surtout
bien fusionné, par exemple.
C'est très bien fusionné.
Oui, il y a beaucoup d'affaires oui. de styles de mélanger, mais tout fonctionne très bien. Il n'y a pas eu d'abus, on dirait. On sent pas ça.
Pour moi, le fait que ce film-là, quand j'ai passé un million de fois devant la pochette quand j'étais petit au club vidéo, je ne l'ai jamais loué. Parce que moi, je pensais que c'était un film d'insectes. Moi, des films de bébêtes, genre.
Film d'insectes, c'est plus difficile, moi aussi.
Ça m'intéresse pas, ou Fast Cat, ou des
les insectes de feu.
Je trippe pas, tu sais. Fait que je bats, c'était comme
Fast
trois,
Cat, c'est un autre monde, par exemple.
Oui,
ça, c'est hot, là. Mais ouais, ça reste un film.
Des films d'insectes, ça sera pas mon premier choix, là. C'était pas mon premier choix. Puis, c'était comme dans le temps, là, dans notre jeune temps, où tu te louais trois films pour trois piastres, c'est ce qui est ça aujourd'hui. Genre, de la marge, je vais le louer, genre. À la fin du film, là, je capotais. J'ai fini le film, je l'ai réécouté tout de suite.
Ah ouais.
Je m'attendais pas à ça. Okay? C'est vraiment l'histoire d'une fille qui a des pouvoirs télékinésiques avec des insectes qui essayent de traquer un serial killer. Genre. T'sais, c'est hot pareil. T'sais, c'est clair que c'est un hybride entre Carrie avec des insectes, slasher giallo. Ça ressemble à aucun autre film, ce film-là. Pour moi, c'est une petite perle rare. Il a longtemps été classé 18 ans et plus, vu son contenu quand même.
Pas de la version de Creepers que j'ai vue, moi.
Ah non, toi, tu es pauvre.
Je suis tellement déçu.
J'ai comme de la peine pour toi que t'aies vu ça.
Je trouvais ça bon, mais je me doutais pour vrai qu'il y avait de la censure, parce que c'est pas Argento.
Non, t'as des méchantes scènes très violentes dans le film.
Ouais.
Jusqu'à tout récemment, maintenant, bon, tu sais, quand il est classé 13 ans et plus. Comme j'avais dit, c'est quand même des petites gamines de 13-14 ans là, qui se font tuer là-dedans assez graphiquement. Sinon, côté fait intéressant par rapport au film. Okay? Jennifer Connelly se serait fait mordre vers la fin du film par le singe Inga, de son vrai nom Tanga. Puis selon les rumeurs, elle se serait fait sectionner un morceau de doigt, la rumeur. Dans une scène vers la fin, donc tout le long des dernières scènes, surtout la fin du film, tu vois qu'il y a un petit éloignement. Supposément que le chimpanzé pouvait pas être en présence de Jennifer Connelly sans que Dario soit là. Il y avait comme une jalousie entre les deux. Fait que Jennifer, elle avait la chienne, le récent du film, de s'approcher. Je veux dire, comme tu t'es faite, il a fallu qu'elle aille à l'hôpital là, quand même, avoir des points de sûr. Fait que les scènes de la fin, tu vois qu'elle n'est pas sûre quand elle...
Ah ouais.
En tout cas, petit fait intéressant sur le film. Sinon, le film a été tourné en anglais. Okay, je crois que c'est le premier film d'Argento complètement tourné en anglais. Puis, il a quand même été redoublé en anglais sur les voix des...
OK, c'était ma question, ça.
Des acteurs italiens parce que l'accent était trop...
Ouais, était trop forcé.
Push.
Tout, ouais.
Donc,
OK, ouais, parce que ça, moi, je sentais la post-production. Moi, je l'écoute en anglais.
Mm-hmm.
Je sentais la post-prod. Toutefois, tu le vois sur leurs lèvres qui disent quand même... Ils parlent en anglais.
Oui, ils parlent en anglais, savoir, mais ça a été retraduit après parce que c'était, c'était pas beau, là. Donc, une scène qui est très personnelle pour Dario Argento, qui est véridique. Il y a une scène dans le film où Jennifer raconte à Sophie, sa consœur de chambre au collège, que sa mère l'aurait abandonné, elle et son père, la veille de Noël. Donc, puis Dario, c'est vrai, c'est ce qui est arrivé pour vrai dans la vie de Dario Argento. Sa mère l'aurait abandonné la veille de Noël, seule avec son père, serait partie, elle l'aurait quitté. Donc, sinon, en 2001, OK, il y avait un sequel qui était en branle, réalisé par Dario Argento. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la compagnie italienne de production Medusa. Donc, le film a été cancellé. Moi, j'aurais capoté voir un sequel réalisé par Argento. Là,
c'est clair.
Mais malheureusement, regarde, ça n'arrivera jamais. Sinon, tout ce qui est behind the scene, le vidéoclip de Phenomena de Bill Wyman a été réalisé par Michele Soavi.
Ah ouais, ben oui, ben c'est...
Tu sais, State Stride, Cemetery Man, on a parlé de lui
il y a pas longtemps. Michele Soavi est un peu le petit protégé d'Argento aussi.
Là. Il était le first, premier assistant à la réalisation dans le film, donc c'était le protégé de Dario Argento. Donc, un autre fait intéressant, Inga, le chimpanzé, se serait enfui dans la forêt lors du tournage. Ils ont dû arrêter le tournage jusqu'à temps qu'ils retrouvent le singe, était retrouvé sain et sauf, mais comme ça a pris quand même un bout là, avant qu'ils retrouvent. On s'entend, là, on est dans les Alpes de Suisse, là, comme c'est assez grand. Sinon, les abeilles et les mouches dans le film, il y a une scène qui est quand même bien faite où on voit une abeille venir se poser sur la main de Jennifer au début du film. Ce sont des vrais insectes. Oui. C'est vraiment des petites ficelles, vraiment. C'est gros comme une toile d'araignée. Finalement,
voulez-vous le truc pour le faire, ça? je l'ai déjà fait.
Ah, pour vrai?
Ouais.
OK, moi,
C'est simple. Moi, je l'ai fait, je l'ai réussi avec des mouches ordinaires, là, mouches là, qui viennent se poser sur votre pomme l'été. Là.
Okay.
En fait, le défi est d'attraper une mouche. Vous pouvez essayer peut-être de la mettre dans une espèce de ziploc, mais c'est difficile, c'est pas quelque chose de facile à faire. On attrape une mouche et on la met au congélateur. Un peu comme une mouche qui hiberne, hein? Elle va s'endormir au froid, mais elle va rester vivante. Donc, on attend qu'elle gèle. On la sort, puis là, c'est ça le défi. Il faut avoir la bonne ficelle fine. Il faut l'attacher avec une ficelle autour de son corps sans écraser les ailes et sans écraser son petit corps fragile. C'est ça le réel défi. Si elle se réveille pas, probablement que vous l'avez tué en l'attachant. Mais si vous réussissez à le faire délicatement à son réveil, vous avez une belle mouche de compagnie au bout d'une ficelle.
Mais elle est promenée ma mouche en laisse.
C'est super, hot.
Donc, parlant de mouches aussi, il y a eu des millions et des millions de vraies mouches. Dans ce film-là, il y a des scènes.
La scène où ce qu'elle rentre justement, elle est comme un peu en transe.
Oui.
Puis là, elle rentre dans une espèce de salle commune où il y a toutes les filles du couvent qui sont là, sont toutes là.
Oui.
Puis là, elle est comme en transe, puis elle dit je vous aime, je vous aime beaucoup. Mais en fait, elle parle aux mouches dehors qui viennent toutes, sont toutes attirées vers elle, puis viennent se coller dans la fenêtre.
Dans les fenêtres.
Il y en a des centaines et des centaines.
C'est magique cette scène-là parce qu'une transe, elle devient les cheveux dans le vent, comme ça vient posséder un petit
avec
peu
une
comme
une lumière. C'est vraiment magique
cette
scène.
C'est super beau. C'est pour ça que je dis que c'est un petit conte de fée slasher, ce film-là. L'éclairage bleu, froid, blanc. Il y a de quoi, ce film-là, genre. Il est pas comme les autres. Il y a vraiment une magie. Je me tannerai jamais d'aimer ce film-là. Puis, un autre fait intéressant, c'est que Jennifer Connelly refuse toujours, à ce jour, de parler de ce film-là. Donc, on sait pas pourquoi. J'ai tout essayé de chercher. Elle veut pas en parler. La seule affaire que j'ai trouvée, c'est qu'elle trouve que le film est kooky. Son mari, Paul Bettany, la niaise tout le temps avec ça, mais elle veut rien savoir, elle veut pas en parler. Sinon, dernier petit fait intéressant, il y a un jeu qui est sorti en 95, Clock Tower, qui est carrément tiré de Phenomena. La protagoniste s'appelle Jennifer Simpson, elle ressemble deux gouttes d'eau à Jennifer Connelly, et il y a un personnage armé de gros ciseaux dans le jeu, c'est carrément tiré de Phenomena. Donc, sérieusement, c'est un film à découvrir, à réécouter encore et encore. C'est mon masterpiece d'Argento préféré. C'est un classique des années 80. Il est flawless. Moi, c'est un 10 sur 10, ce film-là, pour moi.
Ouais, aisément. Mais là, disons que j'aurais donné 8 sur 10, mais là, que je le regarde avec le gore, je vais peut-être changer d'idée et donner un 10.
Tu as manqué une demi-heure, Simon.
Une demi-heure.
Ah, shit, man, je capote pour toi. Là.
Ah, c'est hein, la maudite censure de ces VHS. On va se laisser avec un extrait du soundtrack. Préfères-tu qu'on monte la tune d'Iron Maiden? On va se laisser avec d'Iron Maiden et on vous revient tout de suite après avec la légende de Blockbuster. Alors, on vient d'entendre une chanson tirée du soundtrack de Phenomena, une chanson de qui s'appelle Flash of the Blade de Iron Maiden. Là, moi, je veux parler d'autre chose, là, quelque chose d'un petit peu plus négatif. Moi, je m'ennuie beaucoup des clips vidéo, hein. C'était le bon temps.
Ouais.
Pour aller passer des heures, là. Je pouvais déambuler dans les allées pendant des heures à la recherche d'inspiration cinématographique pour meubler ma soirée en pyjama. Mais il y a un clip vidéo que j'ai toujours détesté, puis c'est Blockbuster.
Mm.
J'étais clairement pas le public cible. C'est clair qu'il visait une zone plus familiale. 128 maudites copies du même film plate d'Hollywood, des kilomètres de mauvaise sélection DVD. C'était vraiment pas un clip vidéo pour moi. Selon moi, je dirais même à chier.
Ouais.
Le staff connaissait rien du tout au cinéma non plus. Si tu cherchais du Martin Scorsese, du Stanley Kubrick, du David Cronenberg, l'employé te répondait « Dans quel film il joue, lui? » C'était n'importe quoi, là. C'était pas le genre de clip où on pouvait demander conseil parce que leur réponse était toujours « Titanic, t'as gagné des prix! » Une belle bande d'imbéciles. On dirait que le seul prérequis pour y travailler était de savoir de tenir une caisse. Les connaissances sur le cinéma étaient de toute évidence superflues. Mais quand on fouille un peu, on se rend compte que c'était même pire que ce qu'on pouvait imaginer. Il y a plusieurs légendes qui entourent la chaîne américaine, et si elles s'avèrent vraies, vous souhaiterez que la défunte chaîne brûle en enfer. C'est donc une chaîne qui a été lancée en 1985 au Texas pour finalement mourir en 2014. Elle a fait faillite en septembre 2010 et a converti la majeure partie de ses dettes en actions. La chaîne a été rachetée en mars 2011 par la compagnie Satellite Dish et CoStar. Ils vont alors fermer au moins la moitié de ses boutiques pour tenter, dans les clubs restants, de vendre des abonnements à leur service de vidéo on demand. Mais ça tient pas la route et ils ferment finalement la chaîne en 2014. Pour ceux qui sont déjà allés, vous avez sûrement remarqué que certains films n'étaient pas disponibles dans leur club. Il y a une raison à ça. Les propriétaires de Blockbuster sont très conservateurs politiquement et n'étaient pas très chauds à l'idée de distribuer des films qui ne fitaient pas dans leur agenda politique ou religieux. C'est pourquoi, par exemple, ils n'ont pas distribué le film « La dernière tentation du Christ » à sa sortie, le considérant comme un sacrilège. Il fut éventuellement mis sur les tablettes malgré tout, mais avec des scènes coupées au montage. Blockbuster ne gardait pas les films classés X sur ses tablettes. Je ne veux pas parler de porno, là. Tentant de s'aligner pour une clientèle familiale, ils ont opté pour mettre ces films de côté. On sait que dans l'histoire du cinéma, la plus grande crainte des créateurs de films EV est d'obtenir une classification X parce que ça rendait l'accès à leurs films plus difficile et ils devaient subir ainsi une perte d'auditoire importante. C'est pourquoi plusieurs réalisateurs ont tendance à couper eux-mêmes des scènes jugées trop trash pour obtenir une classification plutôt 16 ans et plus, par exemple. Le but est d'atteindre un plus large public et donc de faire plus d'argent avec son film. En juillet 1986, 26 réalisateurs ont publié une lettre ouverte demandant une nouvelle catégorie de classification adulte pour remplacer le fameux X, très mal vu par le public, étant donné que les films porno recevaient la même cotation, alias mort économique de leur film lorsqu'appliqué à un film non porno. Mais le bureau de classification voulait rien savoir, il ne pliait pas. Ainsi est sorti le film Henry and June en 1990, drame biographique à caractère érotique, mais pas porno. Plutôt un film de découverte de nouveaux horizons sexuels. Évidemment, le film aura reçu une classification X par le bureau. Universal Studios a demandé une reclassification menaçant le board que dans le cas contraire, ils distribueraient le film avec ou sans leur consentement. Le board s'est senti un peu forcé la main par les menaces de Universal et ont finalement créé une nouvelle catégorie à contre-cœur, le NC-17, qui est un peu un 17 ans et plus finalement.
Ouais.
Pour une durée de 3 mois, les artisans du cinéma ont été réjouis de cette nouvelle classification qui donne état des films plus sérieux pour un public adulte. Leur bonheur n'aura été que de très courte durée, par contre. Le révérend Donald Wildman de la American Family Association, qui ne comprenait pas la différence entre 17 ans et plus et X, a menacé la chaîne Blockbuster de les boycotter s'ils ne retiraient pas les films cotés 17 ans et plus de leur tablette. Blockbuster, de toute évidence, sans colonne vertébrale, salle ont eu peur et instantanément retiré tous les films de 7 ans et plus de leur club. Tout ça à cause des menaces insignifiantes d'un fucking révérend imbécile. Cette menace a créé un effet domino sur l'industrie du cinéma américain. Soudain, ni les journaux ni les salles de cinéma voulaient supporter les films de 7 ans et plus par crainte de représailles qui pourraient affecter leur vente. C'est toujours une question d'argent. En peu de temps, la réputation des 17 ans et plus est ternie, représentant aux yeux des spectateurs la même chose que la cote X, et encore aujourd'hui, les films 17 ans et plus aux États-Unis équivaut aux yeux des gens à de la porno trash. Selon les grands patrons de Blockbuster, ils démentissent avoir censuré ou coupé les films, et ils avancent même avoir tenté d'offrir la version complète des films qui étaient affichés en salle. Officiellement, c'est partiellement vrai. C'est pas eux qui coupait les films. Ce qu'on raconte, c'est qu'il faisait pression auprès des distributeurs d'Hollywood pour qu'ils coupent les films pour leur distribution en DVD, ce qui, pour moi, revient pas mal au même. Le pouvoir de vente de Blockbuster est immense. Quand un DVD de Club Vidéo peut coûter jusqu'à 75 à 100 $ la copie, j'y reviendrai, mais en fait, c'est ça, dans un Club Vidéo, toi, quand t'achètes ton film, il te coûte peut-être 15$, mais vu que le Club Vidéo va faire de l'argent avec, leur copie, à eux, coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a les droits d'auteur à payer. Mm-hmm. Donc, un film Vidéoville, un petit film téléfilm que personne va louer, il te coûte même pas une pièce à acheter pour ton Club Vidéo, parce que c'est pour ça que tous les Clubs Vidéo en ont. C'est parce que c'est une belle façon de remplir ses tablettes à peu de frais. Mais les films comme Titanic peuvent coûter jusqu'à 100 quelques dollars parce qu'ils savent qu'ils vont louer beaucoup et qu'ils vont faire de l'argent avec ça. Donc, c'est pour ça que les films doivent être loués souvent pour devenir rentables. Quand une copie d'un film peut coûter jusqu'à 75 ou 100 dollars la copie et qu'il y en a 50 dans chaque blockbuster à travers l'Amérique au complet, on s'attend bien à ce qu'Hollywood plie sous les menaces, ayant peur de perdre autant d'argent. Entre l'argent et l'intégrité pour une compagnie, le choix est facile, même si brise-cœur. Mais faut pas non plus croire que c'est tout de la faute à Blockbuster. Hein. Il est assez courant de voir un film sortir en DVD avec un montage différent de la version pour acheter en salle, encore une fois dans le but généralement d'obtenir une classification pour un plus large public. Au risque de me répéter, tout est une question d'argent. C'est pas pour rien qu'on peut souvent voir des DVD avec l'inscription « Unrated Version » juste à côté de la version censurée sur la même tablette. Le but est d'aller chercher le plus grand public possible et de vendre, vendre, vendre. Comme Blockbuster a toujours démenti les accusations qui pesaient contre eux, il n'existe aucune preuve de ces allégations contre la chaîne du Texas. Surtout que, d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre, certains clubs semblent avoir eu des films dits « bannis » sur ces tablettes. Ce qui fait que La Dernière Tentation du Christ était peut-être pas disponible dans les blockbusters américains, mais on pouvait le louer sans problème dans les blockbusters au Canada. Si on fouille un peu sur divers forums sur Internet, les opinions sont diverses. Il existe des sites prônant le boycott de Blockbuster, mais il en existe tout autant prônant que ces allégations de censure sont fausses. C'est dur un peu de s'aligner là. En lisant les nombreux commentaires, on a de la misère à se faire une idée parce que tout le monde s'ostine sur le même sujet. Personne n'a de preuve pour prouver son point. Tout n'est que spéculation d'un côté comme de l'autre. C'est pourquoi ça n'ira jamais plus loin que le stade de la légende. Qui croire, qui dirait, qui parle à travers son chapeau? Il n'y a aucun réel moyen de savoir. Si Blockbuster réellement fait ça, ça semble être un secret de polichinelle, et je les comprends. Hein? Si Blockbuster était fier de leur façon de faire, ce serait annoncé, ils en auraient fait dans des publicités. Si c'est vrai, de toute évidence, ils savent très bien que c'est mal de manipuler les films de la sorte et d'imposer leur agenda politique et religieux à travers leur sélection vidéo. Mais là, je te demande, là, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Penses-tu que c'est quelque chose qui est possible? C'est difficile, j'ai de la misère à me faire mon opinion. En tant que gars qui a tendance à croire que tout le monde est méchant jusqu'à preuve du contraire, on dirait que j'ai le goût de le croire parce que je le sais que les Américains sont forts en manipulation pour leur cash, mais moi, je le sais pas, je trouve ça un peu intense, moi, manipuler.
Je serais vraiment, vraiment pas surpris. Puis, gars, comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai traîné dans un club vidéo. Quand j'étais jeune, pendant 6 ans à peu près. OK? Puis nos compétiteurs à côté de nous autres, c'était Blockbuster. Fait que oui, des fois, on allait voir c'est quoi leur scène, puis nanana. Puis oui, il y avait une section de cul là-bas, X. Mais ce n'était pas une section. T'avais pas le droit d'avoir dans les Blockbusters de salles pour adultes. C'était un comptoir sur le côté avec un catalogue.
Ah oui?
Oui. Fait que devant tout le monde,
tu magasinais ta porn.
Tu magasinais ta porn, tu sais, à côté des films pour enfants dans un hey. Mais honnêtement, Simon, je serais pas surpris pantoute.
Ouais, moi non plus.
C'est de l'argent des Américains.
C'est ça qui arrive.
Je serais...
C'est difficile. C'est très difficile de se faire une idée parce que, comme je dis, on sait qu'il y a des diverses versions de chaque film en DVD pour tous les types de publics. C'est dur de se faire une idée. Mais...
Il faut peut-être du pouvoir en maudit. Là,
ben, on s'entend-tu que le pouvoir d'achat de Blockbuster? Là?
Hey, my God, hey, pour dire à ta compagnie là, de production, distribution, non, nous autres, on va couper
Tes scènes. Ouais, tu vas couper tes scènes, là, parce que ça, pareil, sinon, moi, je ne l'achète pas.
Ouais, c'est de quoi pareil?
Ouais. C'est sûr que ça a affecté les autres clubs. Là. Je vais vous sortir une liste, en fait, des films qui auraient été censurés et ou bannis dans les blockbusters. Je vais lancer ça rapidement. Fritz the Cat en 72, Cujo en 83, Henry Portrait of a Serial Killer en 87, oui. La Dernière Tentation du Christ, Henry and June, le film français, belge en fait, c'est arrivé près de chez vous.
Oui.
Bad Lieutenant, Brain Dead, L'Agent faire la face, 33 et un tiers. Je sais pas pourquoi. Showgirls en 95, Crash en 96, Kids en 96, Orgasmo en 97, Lolita de 98, la version d'Adrian Lynn, qui est de toute beauté.
Oui.
J'adore ce film-là. Two Girls and a Guy en 97, In the Realm of the Senses, Happiness en 98, The War Zone, Requiem for a Dream, Wonder Boys, Lie en 2001, Y tu mama también, A Dirty Shame, et même le documentaire Inside Deep Throat, quoique je comprends quand même, là.
Oui, mais c'est tame, pareil, le documentaire. Puis ça, tout
ben
ce
oui,
que tu nommé,
c'est un documentaire, là.
C'est tout du NC-17 que tu viens de me nommer.
Oui, oui, c'est ça. Il y a pas, j'ai même pas nommé de faire comme La Dernière Maison sur la Gauche ou La Vengeance de Jennifer, là. C'est vraiment des films Cujo, censurés Cujo.
Ça, je comprends pas.
Non, c'est ça. C'est pour ça que c'est un peu comme l'histoire des vidéos nasty. C'est toute une question d'opinion. Pourquoi tu censures ça? Pourquoi tu censures pas ça? Puis tout tombe entre les mains de 2-3 dudes là, qui pensent tout savoir. C'est ça qui est frustrant. Bien entendu, il n'y a pas nécessairement de VHS insolite relié à cette légende, mais j'ai en main les VHS de Training de Blockbuster que je vous ai partagé sur le blog. C'est deux cassettes de Training de service à la clientèle. Mais la première est un peu veg, là, parce que tu vois que ça se fait avec un cahier de notes. Puis là, il y a une situation, puis après ça, il faut répondre à une question dans le cahier de notes. Fait que constamment, tu as des mises en situation avec des acteurs poches. Puis là, ça fait une pause, répondre à la question de cahier de notes. Puis là, ça repart avec une autre séquence. C'est intéressant, mais on le regarde pas au complet, même si c'est juste une demi-heure. Le deuxième, par contre, il est le fun. Parce que le premier sorti en 2000, l'année suivante, en 2001, ils ont sorti une deuxième cassette pour la clientèle plus difficile. Celui-là, il est intéressant parce que là, t'as de l'acting. T'as vraiment des acteurs qui parlent à la caméra. C'est pas nécessairement dans un club vidéo, ça se passe à l'aéroport, ça se passe... C'est comme si le gars, comme si c'était un CEO de Blockbuster, il te dit comment dealer avec les clients du style. Il arrive à l'aéroport, il s'en va dans l'avion, il arrive chez lui, puis c'est tout ça, là. C'est tout son service à clientèle auquel il doit faire face, puis les clients autres qui doivent... Puis là, il donne des exemples par rapport au service à clientèle en général, qui s'accorde très bien, évidemment, au Blockbuster. Donc, je vous invite, si ça vous tente, de venir jeter un coup d'œil à ça. Ça se retrouve sur le blog. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup, Olivier.
Merci, Simon.
Il nous reste une minute pour la chanson de la semaine. J'avais le goût d'une petite tune qui rock, là. J'avais le goût de distorsion, là. J'avais le goût de me faire brosser à cabane un peu encore cette semaine. Fait que je suis allé chercher une tune un peu plus pop de Alien and Farm, mais au moins une tune de cinéma. Hein, on va écouter la chanson Movies. Et on vous revient la semaine prochaine pour une autre émission des Oubliettes. Merci beaucoup de nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, tout ça. J'ai rajouté même une page sur le blog avec toutes les pages auxquelles on est de YouTube. Allez voir ça. Liens et vidéos sur le blog. Plein de nouvelles informations. Sur ce, merci beaucoup encore. À la semaine prochaine.